VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. 11h en temps universel, la Cour suprême du Libéria a convoqué pour une audience fixée à demain jeudi la Commission électorale nationale, la NEC, après avoir été saisie par trois partis politiques contestant les résultats du premier tour de la présidentielle du 10 octobre. Cette audience menace de retarder la tenue du second tour prévu le 7 novembre entre l'ex-star du foot, Georges Weah, et le vice-président sortant, Joseph Boakai, arrivé aux deux premières places, la Cour suprême ayant ordonné à la Commission électorale de suspendre toutes les actions liées au second tour prévu le 7 novembre jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le cas. Le parquet sud-africain va réclamer vendredi une peine plus lourde pour l'athlète paralympique Oscar Pistorius, jugeant scandaleusement clémente sa condamnation à 6 ans de prison pour le meurtre de sa compagne. Énième rebondissement dans cette saga judiciaire. Le parquet sud-africain va présenter le temps d'une journée ses arguments devant la Cour suprême d'appel de Bloemfontein dans le centre du pays en l'absence de champion olympique. Les juges devraient rendre leur décision à une date ultérieure. Le mouvement de grève générale lancé par l'opposition et la société civile à Bukavu, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo, pour exiger des élections, a été largement observé ce mercredi d'après l'AFP. Les banques, stations-service et autres commerces étaient fermés à Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu. Les rares élèves qui s'étaient rendus à l'école ont été renvoyés, tandis que des agents de la police anti-émeute étaient positionnés dans différents points de la ville. Le but de cette journée ville morte est d'exiger la tenue immédiate des élections, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, ont indiqué dans un communiqué les organisateurs. RDC toujours, un collectif d'intellectuels de la diaspora et de l'intérieur demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'aider à mettre sur pied une transition sans la classe politique congolaise actuelle. Les animateurs de cette période devraient, d'après le collectif, préparer les élections sans y participer eux-mêmes. Docteur Miatusila Malonga est l'un des signataires de la lettre.
Pour sortir de cette impasse, il faut une transition sans Kabila. Mais nous disons que c'est une transition sans les politiciens. On n'a rien pour ou contre Kabila, ça ne doit pas être personnalisé. Mais nous disons simplement qu'il nous faut une transition apolitique. Et je crois que le nom qui vient de plus en plus et que nous entendons de plus en plus, c'est par exemple le docteur Mukwege, le professeur Mbata et certains membres de la commission épiscopale. Donc nous n'avons rien contre ces gens-là-bas. Nous sommes appuyons aussi longtemps que ils rencontrent l'assentiment de beaucoup de Congolais du terrain. Nos politiciens se sont arrangés pour prendre le pays en otage. On le sent dans la façon dont la Cour suprême se comporte. Et nous avons les contacts avec certains des membres de ces institutions. Ils se plaignent. Ils n'ont pas les mains libres. En fait, ils ne sont pas indépendants.
Docteur Miatusila Malonga, membre du collectif d'intellectuels congolais de la diaspora et de l'intérieur, signataire de la lettre adressée au Conseil de sécurité. Le leader de l'opposition kenyane Raila Odinga a promis de ne pas en rester là avec ce qu'il a qualifié de parodie d'élection du 26 octobre, scrutin qu'il a boycotté et qui a débouché sur la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec Ibrahima Khan. Il est le directeur de plaidoyer de l'Open Society Foundation auprès de l'Union africaine.
Raila est dans une situation assez difficile. Il a boycotté l'élection. Le niveau de participation a été pratiquement l'un des plus bas de l'histoire du Kenya. Et donc, politiquement, il a gagné cette élection. Mais malheureusement, il n'est pas à la tête du pays et c'est son opposant, le président Uhuru, qui va continuer à régner sur ce pays pendant les 5 prochaines années. Mais le problème qui se pose maintenant à Raila, gagner politiquement sans pour autant diriger le pays, c'est presque une chose difficile. D'autant plus que Raila est pratiquement éliminé de la course aux élections pour le futur. Les prochaines élections auront lieu en 2022, il ne pourra pas y participer. Je pense que ce qui se pose aujourd'hui, c'est comment Raila peut contribuer à vraiment faire en sorte qu'on ait un système d'élection qui soit vraiment à l'abri de tout reproche.
Justement, il a annoncé ce qu'il appelle une assemblée du peuple. Alors, à quoi faut-il s'attendre maintenant ? Faut-il être confiant ? Faut-il être inquiet ?
Bon, je ne pense pas qu'il y a lieu d'être inquiet parce que ni lui, ni Uhuru ne voudraient être de ceux qui ont complètement détruit le Kenya. Mais je pense que Raila, plus qu'Uhuru, a vraiment intérêt à inscrire son nom dans l'histoire du Kenya comme étant parmi ceux qui ont vraiment fait évoluer ce pays vers la démocratie. Vous savez que le Kenya est un pays où il y a une forte polarisation sur l'ethnie, il y a une forte division régionale. Alors, si Raila peut, pendant ces années à venir, peser sur le cours des événements et faire en sorte que la voix de tout Kenyan compte dans le pays, et faire en sorte que dans ce pays, on ne continue plus à penser ethnie, mais à penser nation, je pense qu'il aura vraiment contribué à faire avancer la démocratie dans son pays. S'il essaie d'utiliser le sentiment des gens, s'il essaie de peser sur la fibre ethnique, il risque de complètement dérailler tout le système qu'on a dans le pays. Et là, on entre dans l'inconnu.
Est-il réaliste d'imaginer un troisième scrutin en bonne et due forme pour mettre un terme à cette crise?
Mais cela dépend en grande partie de l'actuel président. Parce que l'actuel président est aussi confronté à un problème de légitimité. Légalement, il est président, mais la légitimité du président est vraiment en question. Il a été élu avec 35% des voix. Lui-même l'a dit après l'élection qu'il va appeler Raila pour voir ce qu'ensemble il peut faire. Cette expérience-là est tellement douloureuse pour chacune des parties, mais l'opposition étant dans une position aussi forte peut contraindre le pouvoir à faire des concessions qu'il n'aurait pas voulu faire il y a 3 ou 4 mois. Et pour moi, c'est là véritablement l'enjeu des négociations de ces semaines et de ces mois à venir.
Ibrahima Khan de l'ONG Pan-African Open Society Foundation, joint à Accra au Ghana. Deux policiers tunisiens ont été poignardés aujourd'hui devant le Parlement par un extrémiste et l'un d'eux est grièvement blessé. L'auteur de l'attaque a été rapidement arrêté, a précisé le porte-parole des forces de sécurité nationale. Depuis la révolution qui a renversé la dictature en 2011, la Tunisie a fait face à un essor de la mouvance djihadiste qui a fait plusieurs dizaines de morts, notamment des policiers, des militaires et des touristes étrangers. Le mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza a cédé aujourd'hui à l'autorité palestinienne qui contrôle la Cisjordanie, le point de passage entre l'enclave palestinienne et l'Égypte. Nazmi Mouana, principal responsable de l'autorité palestinienne pour les postes frontières, et son homologue du Hamas ont signé l'accord permettant ce transfert de responsabilité considéré comme un test pour l'accord de réconciliation palestinienne conclu le mois dernier. Au terme de l'accord négocié par l'Égypte, l'autorité palestinienne, entité internationalement reconnue, supposée préfigurer un État palestinien indépendant, doit prendre d'ici au 1er décembre le contrôle total de Gaza. Carles Puigdemont, le président indépendantiste catalan destitué par Madrid, est convoqué par la justice espagnole, mais il demande depuis Bruxelles, où il s'est installé, la garantie d'un procès impartial avant tout retour en Espagne. La justice espagnole a convoqué mardi M. Puigdemont et 13 de ses ministres qui sont appelés à comparaître jeudi et vendredi en vue de leur inculpation. Installé à Bruxelles avec une partie de son gouvernement destitué, M. Puigdemont a expliqué lors d'une conférence de presse qu'il comptait rester en Belgique avec quelques-uns de ses ministres pour expliquer au monde les défaillances démocratiques de l'État espagnol. À Washington, il est 7h08.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Et nous avons la même heure à New York. Premier attentat meurtrier à New York depuis 2001. Le chauffeur d'une camionnette a fauché des cyclistes et des passants à Manhattan, tuant 8 personnes et en blessant une dizaine d'autres avant d'être interpellé par la police. Le maire de New York, Bill de Blasio, a qualifié l'attaque d'acte lâche de terrorisme. Le président Donald Trump a évoqué le groupe djihadiste État islamique et a ordonné un renforcement du contrôle des étrangers souhaitant entrer aux États-Unis. Les élus républicains du Congrès américain présente leur projet de réforme de la fiscalité. Aujourd'hui, présenté comme le projet phare du début de la présidence de Donald Trump, il s'agit de la première grande réforme fiscale depuis 1986 et l'objectif est d'injecter quelques 1500 milliards de dollars dans l'économie dans les 10 prochaines années. Et puis, pour terminer, le Congrès poursuit les auditions de responsables des géants de l'Internet, Google, Twitter, Facebook, qui ont reconnu avoir servi de plateforme à des actions de propagande russe pendant la campagne présidentielle de 2016. Après une commission du Sénat, c'est la commission du renseignement de la Chambre des représentants qui conduira ces auditions. Jean-Roger Billon à ce micro. Merci de nous avoir suivis. Point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes exactement. Et ce sera en compagnie de Eric Manirakiza. Merci pour votre fidélité. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.